avec Élisane Pellerin.
On termine les entrevues avec M. Marc-André Bélanger, directeur des communications au regroupement des auberges du cœur du Québec. Bonjour, M. Bélanger.
Oui, bonjour.
Comme je parlais en début d'émission, on va parier des privatisations de l'aide au logement pour les personnes sans-abri. Mais avant tout, pouvez-vous nous parler du regroupement des auberges du cœur et des services que vous offrez?
Oui, bien sûr. Bien, le regroupement des auberges du cœur, c'est le trait d'union d'une trentaine de maisons d'hébergement pour les jeunes qui vivent des difficultés ou qui sont en situation d'itinérance partout au Québec. On accueille des jeunes de 12 à 35 ans. Chaque année, là, c'est plus de 4500 jeunes qui sont hébergés et accompagnés. L'envers de la médaille, c'est qu'on doit aussi refuser plus de 6000 demandes d'hébergement à chaque année. Puis ce chiffre-là, malheureusement, augmente d'année en année.
Est-ce que vous offrez d'autres services que l'hébergement à proprement parler?
Oui, bien souvent, ça commence par l'hébergement, mais effectivement, il y a d'autres services que les auberges ont développés au fil du temps. Il y a bien sûr les appartements supervisés, qu'on pourrait comparer un peu aux maisons de deuxième étape là, chez les femmes, chez les groupes de femmes. Donc, c'est pour que les jeunes puissent apprivoiser un peu la vie en appartement sans être laissés toutes seules. Donc, il y a quand même un suivi qui est fait avec eux. Il y a aussi le post-hébergement. Donc là, c'est des jeunes qui vont être vraiment plus dans des appartements, soit en colocation, dans des logements privés, mais qui peuvent toujours avoir du soutien par les équipes d'intervention. Puis il y en a d'autres qui ont développé vraiment d'autres services. Là, je pense au travail de rue, aux entreprises d'insertion, au travail.
C'est
donc, il y a vraiment différents volets.
Oui, c'est quand même un service qui est complet à part du regroupement des auberges du cœur.
Oui, ben nous, effectivement, nous, en fait, on accompagne ces ressources-là. C'est vraiment les auberges sur le terrain là, qui font le plus gros travail.
Ouais.
Pour nous, on fait beaucoup de représentations au niveau des représentations politiques, mais du travail de concertation aussi avec d'autres groupes jeunesse, d'autres groupes communautaires, parfois aussi avec des groupes des services publics, donc pour essayer de trouver les meilleures avenues possibles pour aider les jeunes qui vivent des grandes difficultés.
J'avais envie de parler avec vous donc de l'impact de la privatisation de la construction des logements sociaux et de l'aide aux personnes sans-abri. On entend beaucoup parler de cette privatisation-là qui se met en place. Quel sera l'impact, selon vous, de cette privatisation-là sur les services et sur les services offerts et puis les hébergements offerts?
Bien, tu sais, on a réagi récemment à l'annonce là, d'un consortium de constructeurs qui veulent créer du logement,
oui.
Du logement social. Puis nous, ce qu'on dit, en fait, l'enjeu qu'on y voit, c'est que pour soutenir des personnes qui sont en situation d'itinérance ou à risque de l'être, en fait, la brique puis le mortier, c'est bien. C'est vrai que ça prend de la construction de logement, mais ça prend surtout, principalement, de l'accompagnement. Il y a des personnes qui sont très éloignées, que ce soit du marché de l'emploi, que pour des jeunes, nous, on accueille plus des jeunes qui sont éloignés de l'école, donc du système d'éducation. De leur offrir un toit, c'est bien, mais ça les aidera pas nécessairement à poursuivre des trajectoires qui pourraient vraiment prévenir à plus long terme un retour vers l'itinérance. Donc, un des enjeux qu'on a, c'est quand le privé vient construire du logement social, mais l'objectif du privé reste toujours la recherche du profit.
Oui.
Ça n'en prend du logement. On est conscient, puis c'est avec ces promoteurs-là qu'il faut travailler aussi, parce que c'est eux qui ont l'expertise en construction et tout. Mais l'accompagnement, le milieu communautaire, les auberges du cœur, ça fait des années, des décennies qu'on a développé cette expertise-là. Donc, quand on développe un projet, ben il faut, dans la conception même du projet, il faut impliquer des acteurs du milieu communautaire, notamment les auberges du cœur.
Donc, ce que je comprends de ça, c'est que finalement, ce que vous déplorez, c'est de ne pas avoir été ou de ne pas être parti de ce projet-là, qu'on vous demande pas, en fait, votre expertise puis qu'on ne vous inclut pas au projet-là.
Ben effectivement, puis c'est bien en fait que des promoteurs privés se préoccupent de cette situation-là. Ça, pour nous, c'est un signe positif. Ça veut dire que l'enjeu dépasse maintenant notre chambre d'écho. Oui. Nous, les groupes communautaires, on travaille beaucoup avec des populations qui sont plus éloignées, qui sont plus marginalisées. Maintenant qu'il y a des promoteurs privés qui se disent « il faut qu'on fasse de quoi », ben moi, ça, je trouve que c'est un bon point. Maintenant, il faut travailler aussi avec les groupes qui accompagnent ces personnes-là au quotidien pour avoir un projet qui va pouvoir être construit ou pensé pour répondre aux besoins réels de ces populations-là, puis que ce soit pas juste une tentative de dire, ben voyez, nous, on fait notre part, mais qu'au final, la solution ne soit pas utilisée par les personnes qui en ont le plus besoin. Donc, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été dans ce projet-là, c'est pas nous personnellement, mais on pense que le milieu communautaire doit prendre davantage sa place dans les solutions proposées, même quand ça vient du privé, ouais.
Ben en fait, je parlais pas de vous en tant qu'auberge du camp, mais plutôt du milieu communautaire, puis du milieu des services là, communautaires qui n'avaient pas été appelés, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Là. L'important, c'est que quelqu'un qui a une expertise soit appelé. Si on revient à la privatisation, est-ce que il y a aussi un plus grand risque? J'imagine que les personnes qui sont sorties de la rue, donc qui trouvent un logement, retournent à la rue parce que il y a quand même des portes tournantes, donc le fait que les personnes en situation d'itinérance, on a des difficultés à les sortir à long terme de l'itinérance sans qu'ils y retournent.
Oui. Mais tu sais, je me rappelle même un ancien collègue là, qui a travaillé avec nous longtemps, il disait souvent, prendre une personne qui est dans la rue où il s'est bâti un réseau d'entraide et de solidarité, puis le mettre dans un appartement de quatre murs alors qu'on l'éloigne de son réseau, c'est pas ça la bonne réponse.
Ouais,
donc, ce que vous mentionnez, là, tu sais, que des personnes, on leur donne un logement, puis particulièrement s'il n'y a pas de soutien communautaire pour ces personnes-là, mais on les éloigne d'un réseau de soutien qu'elles ont réussi à se bâtir dans la rue. Donc oui, il y a une crainte que ce soit des solutions qui soient
temporaires.
Soit peu pérenne, ouais, mais tu sais que est-ce que ça va être une réelle sortie du cycle de l'itinérance? C'est pour ça que les acteurs, tu sais, sur le terrain doivent être consultés, concertés, faire partie prenante de ces projets-là pour que ce soit des solutions qui durent dans le temps.
Oui, je comprends. Et en même temps, on ne voit pas souvent de cet œil-là. C'est-à-dire que pour nous, j'imagine, pour le commun des mortels qui ne travaillent pas avec eux, on leur met un toit sur la tête, puis il y a un problème irrégulier, ou presque. On ne voit pas à quel point c'est complexe, puis à quel point, effectivement, il y avait un réseau d'entraide dans la rue, et que certaines personnes la plupart des gens ont besoin de ces réseaux-là pour continuer d'avancer. Hein.
Mais totalement, effectivement, ce qu'on voit souvent, la personne qui est à la rue, c'est le symptôme de plusieurs processus de désaffiliation. Tu sais, donc, un réseau qui s'est étiolé, ça peut être dû à un événement qui est arrivé tu sais, dans son parcours de vie qui l'a mené à peu à peu perdre que ce soit son emploi, que ce soit son réseau de soutien que la personne connaissait. On le sait, depuis de plusieurs années, les enjeux de santé mentale sont très présents auprès des populations en situation d'itinérance. L'itinérance nourrit aussi ces enjeux-là.
Oui,
donc, tu sais, c'est pour ça que ça prend vraiment une vision peut-être un peu plus large. Puis oui, tu sais, on voudrait pas mettre juste un toit puis penser que ça va régler la situation de l'itinérance. En fait, l'itinérance, c'est un problème ou un enjeu qui est beaucoup plus complexe que seulement la question du toit.
Et on parle beaucoup là, de la hausse des coûts de la vie, puis de ses impacts. Est-ce que de votre côté, vous voyez une augmentation des besoins et un changement au niveau des clientèles?
Oui, en fait, ce qu'on remarque là depuis quelques années dans les auberges, c'est le profil des jeunes qui cognent à la porte pour faire des demandes est en train de changer. Avant, on voyait beaucoup de la grande pauvreté, des jeunes qui n'avaient pas de diplôme, par exemple, de secondaire 5. Puis maintenant, on a de plus en plus de jeunes qui sont diplômés, qui sont en emploi, qui font des demandes d'hébergement parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Puis, tu sais, entre manger ou être logé, c'est un choix qui déchire autant chez les adultes, les personnes aînées que les jeunes. Donc, oui, on voit ce changement-là que le coût de la vie, l'augmentation du coût de la vie, de la nourriture, de l'ensemble des factures, met une pression énorme sur les jeunes, même ceux qui sont en emploi, oui. Même ceux qui sont diplômés. Oui.
Même ceux qui gagnent bien leur vie puis qui n'étaient pas dans ce cheminement-là de prime abord, là, mais qui, à cause des circonstances puis du hausse du coût de la vie, se retrouvent à, vous l'avez dit, à devoir faire des choix puis au final qui n'arrivent pas là, malgré le fait qu'ils travaillent à temps plein. Là.
Oui, exactement. Puis, tu sais, on le voit, là, puis que ce soit à Montréal ou en fait dans à peu près toutes les villes au Québec, même en colocation, trouver un appartement décent, salubre, c'est quand même c'est rendu assez assez dispendieux. Donc même un jeune, par exemple, qui travaille à temps partiel, qui est aux études, bien, à un moment donné, il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Fait que oui, ils vont se tourner vers des organismes un peu comme les auberges du cœur.
Et puis, de votre côté, on parle aussi de problèmes de financement et de problèmes de reconnaissance des centres communautaires. Donc, comment vous en sortez avec cette hausse-là des besoins et de votre côté, un manque de ressources, j'imagine?
Oui, bien, ça fait quand même plusieurs années là, qu'on fait l'exercice entre les montants reçus par le programme de soutien aux organismes communautaires puis les demandes de nos membres, là, c'est quoi leurs besoins en matière de financement. Puis l'année dernière, on atteignait un manque à gagner de 33 millions de dollars. Donc ça, c'est entre ce qu'ils ont besoin pour réaliser leur mission à 100% puis qu'est-ce que les auberges obtiennent. Puis en fait, ce que ça a comme impact, c'est que les directions, tu sais, il n'y a pas de... On touche du bois, là, il n'y a pas eu de coupure de service, mais c'est arrivé qu'il y a eu des fermetures de lits temporaires, qu'on pouvait pas avoir la maison à pleine capacité parce que on n'a pas les ressources pour faire un remplacement ou peu importe. Et l'autre impact, c'est que dans les auberges du cœur, mais là, on doit dépenser beaucoup plus de temps et d'énergie en recherche de financements alternatifs, que ce soit des demandes de subventions par projet, que ce soit faire des activités d'autofinancement, etc. Puis ça, ça veut dire que c'est de l'énergie et du temps qui n'est pas mis à soutenir des jeunes qui ont besoin de cet accompagnement-là, tu sais, pour éviter de se retrouver à la rue ou pour en sortir.
Vous faites bien d'en parler parce que c'est peut-être quelque chose dont on parle moins, mais effectivement, le fait de devoir mettre autant d'énergie à trouver du financement, ben ça vous enlève des ressources puis du temps pour donner des services directement aux personnes qui en ont besoin.
Exact.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de ces enjeux-là. On espère que, entre autres, avec les élections qui s'en viennent, puis avec la nouvelle année, qu'on va voir un changement de cap là, au niveau, entre autres, des décisions gouvernementales. Mais
On aimerait ça, oui.
Ben écoutez, je vous le souhaite, je nous le souhaite. Je ne sais pas ce que ça va donner. Là. Souvent, on revient du pareil au même. Là, j'ai l'impression dans les dernières années, mais quand même, on peut toujours essayer d'y croire. Merci d'avoir été avec nous, M. Bélanger. Vous êtes directeur des communications des regroupements des auberges du cœur du Québec. Et en terminant, pour les gens qui voudraient vous aider ou qui voudraient en savoir plus sur vos services, pouvez-vous nous donner le moyen de vous joindre?
Bien, on est sur à peu près l'ensemble des plateformes des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn. Sinon, sur notre site web qui est au www.aubergeducœur, auberge au pluriel, donc avec un S, aubergeducœur.org.
Merci d'avoir été avec nous, puis on vous souhaite bonne chance pour la suite.
Merci, bonne journée.
Au revoir.